Serge Gardy, bureau d'études Setup Environnement à Caen. Je suis architecte paysagiste. Alors je ne suis pas donc architecte et paysagiste, je fais une petite précision. Je suis paysagiste bureau d'études, donc c'est une formation d'architecte de paysage. Voilà. C'est le terme utilisé par la Fédération française du paysage. Donc pour faire un petit rappel, j'ai connu effectivement donc M. Bergel il y a 15 ou 20 ans, je n'ose pas compter. Voilà. À l'origine, c'était pour travailler sur le campus 2. Où à l'époque il n'y avait que 2-3 bâtiments sur une grande plaine et il y a eu un concours de maîtrise d'œuvre pour donc justement une extension d'un premier bâtiment et commencer à réfléchir sur ce qu'on allait faire. Et à l'époque, M. Augier, qui est donc un ingénieur territorial, qui était responsable de tout ce qui était donc les projets de construction du rectorat, et voulait donc dans l'équipe un architecte paysagiste parce que c'était un peu la mode à l'époque. Et je me rappelle bien encore à la première réunion, puis donc il m'a dit, j'ai mis architecte paysagiste dans les compétences, mais à quoi vous allez servir? Alors déjà, ça démarrait bien, ça mettait l'ambiance. Je dis, écoutez, je vais essayer de faire un peu plus que de planter des arbres. Et je vais vous présenter 2-3 principes qui peuvent, donc j'espère, être utiles. Et donc effectivement, on a commencé par réfléchir à l'organisation, je dirais plutôt notion d'urbanisme, de l'aménagement du campus 2, avec la définition, avec d'autres partenaires sur ce projet-là, la définition donc d'un programme sur le long terme, de l'ensemble des bâtiments qui seraient donc envisageables avec des densités, organiser donc l'espace en fonction donc de circulation. Je ne vais pas trop développer, mais je vais aller à l'essentiel. Vous savez bien que ce campus 2, donc, on ne tourne pas donc, à l'intérieur donc, du site, ou relativement peu. On utilise donc, les voies donc, extérieures pour faire le tour du site, parce qu'on voulait, de manière majeure, libérer donc, un espace pour les piétons, pour les circulations donc, à l'intérieur du site, et limiter donc, les déplacements en voiture à l'intérieur du site. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des effets de voies sans issue, il y a donc des secteurs, et ensuite on va donc à pied d'un secteur à un autre, justement pour limiter donc les dépassements. Donc ça, c'était déjà donc il y a une quinzaine d'années, donc c'était déjà des choses que l'on retrouve beaucoup plus fréquemment maintenant. Voilà. Donc c'était l'origine de l'intervention sur le avec Monsieur Bergel. Donc je travaillais seul pendant quelques années, et au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il était plus intéressant de compléter les compétences de paysage avec des notions liées donc à l'environnement de manière large, liées à l'écologie, liées à l'urbanisme. Donc on est maintenant en bureau d'études de 5-6 personnes où il y a un ingénieur écologue, où il y a donc un urbaniste, où il y a un géographe, un ingénieur en énergie renouvelable, un ingénieur VRD, il y a parfois un autre paysagiste. Il y a parfois un architecte selon les périodes et le plan de charge. Donc le but, ou je dirais un peu la philosophie donc, du bureau d'études, c'est une approche transversale du territoire, parce qu'on ne peut pas faire que du paysage sans donc, aborder d'autres problématiques comme l'environnement, comme l'écologie, comme l'urbanisme. Donc ça nous permet d'intervenir sur des PLU, plutôt sur des PLU donc, ruraux, sur des petites communes. Et on a fait pas mal de PLU littoraux donc également, à Courseulles-sur-Mer, à Grandville, à Flamanville, Urville-Nagville, enfin voilà, à Vers-sur-Mer, quelques exemples d'interventions. Donc je vais vous présenter deux études qui sont, je pense, assez révélatrices des problématiques que l'on peut donc rencontrer. Une première étude qui est assez parlante et sur un sujet que vous connaissez bien, c'est sur le Mont-Saint-Michel, au niveau de l'opération Grand Site, qui a été mise en place. Donc en 2003, on a fait une étude pour la protection des silhouettes villageoises. Et l'objectif de l'étude était de se poser donc la question, quel est le rapport des différentes communes qui font le tour de la baie, quelle est la relation donc des communes vers le Mont-Saint-Michel, et de manière donc réciproque, quelle est la perception depuis le Mont-Saint-Michel vers donc les communes littorales, et quelles sont donc les problématiques, les différents enjeux et les choses à proposer. Donc je me suis intéressé, moi j'ai travaillé sur 4 communes, donc de Beauvoir à Courtille, en passant par Ardevon et Huisnes-sur-Mer. Donc voilà, donc la chose particulière, c'est que ces 4 communes sont toutes installées à l'origine sur des reliefs. Donc ça, c'est le signe qui est tout à fait marquant. Et vous allez le voir après sur les chemins donc des pèlerins. C'est vraiment quelque chose qui s'est révélé, mais sur les 14 communes qu'on a analysées, c'était vraiment mais systématique. Toutes les communes sont donc orientées droit vers le Mont-Saint-Michel, donc les pèlerins venaient donc de très loin. Ils avaient qu'une envie, c'est d'y aller directement, donc, et en plus même pour l'aménagement donc, des communes. Et c'est assez marrant, donc on arrive à chaque commune donc en allant sur un donc relief qui est parfaitement donc orienté donc vers le mont. Et à chaque fois, on a donc l'église qui est en limite de la rupture donc de ce relief. Donc au plus avancé donc vers le mont. Donc à l'origine, on avait toujours donc le rapport ou la co-visibilité entre l'église et donc le mont, donc le rapport à la foi bien sûr, qui était tout à fait la clé de voûte de ces cheminements. Et au fur et à mesure, donc ce sont des bourgs qui se sont donc étendus. Et on avait bien donc les bourgs que vous voyez ici avec les communes. Donc voilà, on va s'intéresser. À celle-ci, c'est Vignes-sur-Mer. Et en partie basse, on avait donc forcément tout ce qui était bergerie et tout ce qui était sur les polders et sur les marais blancs, tout ce qui était donc principalement avec des moutons, avec des pâturages au vin. Ensuite, donc, on a fait des planches, des repérages, des vues du mont vers les communes, quelles sont les faces les plus visibles, quelles sont les zones de visibilité. Voilà, donc je vais aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de planches et je n'ai pas fait forcément un tri significatif. Là, c'est l'ensemble de la vue donc sur la baie où donc d'un coup on voit au moins les quatre communes qui nous intéressent. À chaque fois sur les reliefs, on a donc les églises de chaque commune et en partie basse, on a tout ce qui est bergerie. Et si on zoome sur la commune de Vignes-sur-Mer, on a donc autre chose intéressant. En partie basse, excusez-moi, je me répète. On a donc les bergeries avec différentes entités, différentes appellations, Montissier, Rivage ou autre. On a aussi donc un ossuaire allemand sur un second donc relief. Suite à la guerre, il y a eu un ossuaire qui a été mis ici. Et on a donc le bourg qui est vraiment sur le point haut avec, ça ne se voit pas trop sur, je pense, sur ce photomontage, mais on a donc l'église qui est en point dominant. Et on a malheureusement quelques maisons donc isolées qui font tache, qui font du mitage, on peut le dire de manière très claire, vraiment, et qu'on va voir donc en détail un peu plus loin après, et qui font des points d'appel tout à fait négatifs. Donc voilà un peu le principe. Sur ces principes-là, c'est-à-dire que vu du Mont-Saint-Michel, les zones les plus foncées, c'est les zones de visibilité, et les zones claires qui sont masquées, ce sont les zones où le relief fait donc écran sur les arrières. Et cette logique-là va se retrouver dans les propositions pour les extensions du bourg, où on tient compte des zones où on n'a pas de perception, donc justement sur les extensions éventuelles. Et donc on a vraiment des lignes dominantes avec le bâti qui est sur le bourg, et ensuite des zones vertes, donc je dirais donc des coupures vertes, qui sont de chaque côté du bourg à chaque fois. Alors, on a analysé chaque silhouette villageoise avec des croquis pour, je dirais, pour les simplifier. On a bien le bourg et les fermes qui apparaissent, qui sont séparées. On a encore notion de coupures vertes qui sont intéressantes. Selon d'autres lignes, parce que, attendez qu'on est sur un relief, on est visible à 360 degrés, donc c'est pas toujours évident, et on a effectivement des effets de perception qui sont assez percutants. On a tenu compte aussi des vues principales que l'on a de l'intérieur du bourg vers le mont, et entre autres depuis donc l'église, puisque c'est un point de vue donc majeur qu'il convient de respecter, et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure il est de plus en plus donc restreint, voire supprimé dans quelques malheureux aménagements. On s'aperçoit sur cette vue du bas, donc à gauche, qui est assez intéressante, qu'on a des constructions dans la voie qui redescend vers le Mont-Saint-Michel, en alignement sur rue, tout en conservant certaines zones libres. Et ça, c'est intéressant, c'est des choses qu'on a essayé de pérenniser et de proposer, et malheureusement, on s'aperçoit que ça a du mal à passer. Voilà, donc de manière synthétique, si on fait la synthèse du diagnostic, on a bien donc le bourg avec des coupures vertes donc tout autour, coupures vertes qui donnent donc en général transition vers des bergeries, et de manière très dense, plusieurs bergeries qui sont vers les polders, donc en limite, donc des polders et du marais blanc. On a principalement donc un bâti qui est aligné sur rue, alors que donc maintenant on a du mal à le faire passer. Donc on a estimé certains enjeux, donc on a hiérarchisé, donc il y en a 5 principaux. Donc la priorité absolue, c'est de conserver donc les points de vue vers le Mont-Saint-Michel, puisque c'est quand même, je dirais, l'image de la commune, hein. C'est des communes très touristiques où l'enjeu, c'est voir le Mont-Saint-Michel. Donc Si on veut utiliser une chambre d'hôte à Luynes-sur-Mer, par exemple, on veut sa vue sur le Mont, mais bon, c'est pas toujours possible. Mais au moins, quand on parcourt donc le bourg, c'est sympathique de profiter de quelques vues qui ont été respectées. Donc, vues à partir des voies structurantes, à partir des places significatives de cœur de bourg, ce sont des choses essentielles et évidentes, on va dire. Alors, malheureusement, on s'aperçoit que on a des typologies architecturales qui se sont mises en place. On est bien face au Mont-Saint-Michel et on voit des choses. On voit du néo-normand. Alors, il a une vue magnifique sur le mont, mais il nous mange toute une entrée donc de bourg. On avait une vue superbe qui est bloquée par cette construction. La maison où je parlais donc de mitage, vue en limite donc des polders, c'est celle que vous voyez sur la gauche. C'est absolument dramatique. Et en cœur de bourg, des choses assez surprenantes que l'on peut observer. Et je me bats contre ça quand on a sur les règlements d'urbanisme des appellations comme donc un enduit en pierre naturelle, couleur pierre naturelle. Mais ça veut dire quoi? Il y a des milliers de types de pierres, ça ne veut absolument rien dire. Donc en fin de compte, on peut faire n'importe quoi. Et on s'aperçoit que la majorité donc, des enduits sont beaucoup trop clairs, alors qu'on a un bâti ancien ici en schiste, et qui est superbe, qui est assez foncé, donc vous allez le voir après, donc on préconise certaines recommandations. Donc c'est des petites choses comme ça, mais qui cassent tout à fait un cadre. Et ce principe-là, donc il se retrouve. Alors là, c'était une photo donc en 2003, malheureusement, je ne l'ai pas refaite maintenant, mais c'est pire maintenant. C'est dramatique. Et on a beau avoir fait des préconisations, ils étaient sous un règlement de poste à l'époque, ils ont commencé à mettre en place un PLU, et malheureusement, ils ont laissé courir d'autres situations, parce qu'il y a une pression des différents propriétaires, donc des terrains qui descendaient vers le mont, pour absolument donc aménager, et il y a eu d'autres constructions. Donc c'est-à-dire que ceux qui avaient donc leur maison qui était face au mont, fiers de profiter donc de la vue et dire « j'ai la meilleure vue sur le mont », ben, il y a eu une première construction qui lui a pris la vue, et ensuite il y en a encore une autre, et c'est descendu au fur et à mesure. Donc il y a vraiment donc une thématique que l'on pourra éventuellement voir dans la discussion, c'est la notion de l'appropriation donc de la vue. Je veux donc profiter donc d'un cadre, d'une vue, mais qu'est-ce que je rends comme service, qu'est-ce que j'apporte à la commune quand je m'installe ici? Quel est le respect donc de ce patrimoine commun, de cet environnement? Et ça, c'est un problème majeur que l'on retrouve dans la plupart des cas. Et là, donc, il y a une maison qui est en parpaing, qui n'est pas encore construite, mais la plupart sont avec des enduits blancs, et ça flash, c'est vraiment donc un mitage visuel, et la couleur foncée donc de l'église est vraiment donc en second plan du coup. Donc, on avait donc à l'origine donc un cœur de bourg et une voie structurante qui allait donc vers le Mont-Saint-Michel. On le voit bien, cet effet de cône que vous avez ici, qu'on a essayé de mettre en évidence et pour inciter, vous allez le voir sur un schéma après, à avoir des constructions qui s'alignent sur la rue et qui laissent des respirations entre les voies que vous voyez qui partent vers les bergeries. Mais malheureusement, c'est dur à faire respecter. Voilà. Et alors, des choses tout à fait intéressantes aussi. Alors, je vous ai dit qu'en limite des polders, on n'avait que des bergeries. Et on s'aperçoit que, malheureusement, ce sont des activités économiques qui sont plus ou moins faciles à pérenniser. Et forcément, les bergeries sont revendues à prix d'or pour faire de l'habitat. Mais on a toujours donc les moutons qui traversent deux fois par jour pour aller vers les polders, qui font des déjections sur la route. Vous le voyez sur la rue avec la voiture ici. Et les gens se plaignent que ça fait du bruit, que ça fait donc des odeurs, mais c'est avant tout des bergeries et il y a des polders. Donc c'est je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller donc au restaurant et profiter de l'agneau de présalé, mais c'est particulièrement goûtu et c'est très agréable. Donc il faut bien que l'activité se fasse. Et voilà, donc il y a des oppositions entre vouloir utiliser certains donc bâtiments qui sont avant tout fonctionnels plutôt que de l'habitat, et voilà, donc c'est pas logique. Il y a aussi donc c'est l'enjeu que j'ai déjà mis en évidence, c'est de maintenir la spécificité donc agricole de la commune. On a bien sur le bourg en partie haute et protégé de tout ce qui est inondation de zones humides au-dessus donc du marais. On a bien donc un bourg qui est bien installé en toute sécurité. Et dès qu'on descend donc vers le marais, on peut avoir donc des inondations et des périodes très humides sur ces communes-là. Et on a pourtant des habitations, des granges qui sont remises en habitation alors qu'il peut arriver des accidents où c'est sous les eaux. Voilà, donc ça, il faut l'imaginer. Donc, et surtout, donc, le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'à moyen terme, ben, on a des gens qui s'installent et qui vont se plaindre que, ben, y a une stabulation qui fait du bruit, que les vaches, ben oui, ça fait du bruit, et qu'il y a des odeurs parce qu'il y a du fumier, y a des choses comme ça. Et le maire reçoit des plaintes ou des choses assez surprenantes. Voilà. Et on a aussi des activités donc économiques, en limite des polders encore, qui, avec des types de construction, mais totalement quelconques et qu'on revoit un peu partout, vont s'implanter en premier plan et en covisibilité avec le Mont-Saint-Michel. Donc c'est cette notion de covisibilité, oui, je ne sais pas si c'est des termes que l'on utilise souvent, mais c'est un terme essentiel, c'est-à-dire que donc on voit l'objet et on voit aussi le Mont-Saint-Michel ou autre patrimoine donc en même temps. Il y a aussi l'intervisibilité, enfin on pourra développer éventuellement. Voilà, donc je vais à l'essentiel parce qu'il y a une autre thématique après qui est assez intéressante. Donc pour vraiment être démonstratif, on a fait quelques schémas. Assez percutant, assez provocateur, mais bon, quelquefois il faut se faire mal. Là, c'est la situation donc actuelle en partie haute, et on leur a dit voilà, est-ce que vous voulez ce type de situation? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que les lotissements avancent vers le mont sur des reliefs avec des couleurs d'enduit telles que vous faites maintenant? Voilà ce que ça va donner dans quelques années si vous prenez cette hypothèse-là. Bon, donc en général, effectivement, ça a été à peu près donc admis, sauf les propriétaires donc des terrains actuels qui disent tout qu'on fait, c'est acceptable. Enfin voilà, c'est le problème de la pression foncière. Voilà. Donc on avait essayé de trouver donc des compromis, donc en disant que s'il y a des choses à faire, il faut essayer de densifier donc sur des zones, se laisser donc des respirations, se laisser des espaces par rapport donc aux bergeries, etc., etc. Certaines logiques évidentes d'aménagement du territoire et de protection des paysages. Donc, d'autres exemples sur d'autres façades de la commune où on leur a signifié qu'il fallait faire attention et ne pas faire en sorte que l'extension donc urbaine se fasse de ce côté-là. Donc voilà, ce sont les mêmes logiques. Alors, on va mieux le voir sur ce schéma-là. Donc en partie basse, c'est une proposition qui tient compte de la forme du bourg avec de l'alignement sur rue qui est proposé. Je sais pas si vous le voyez sur la simulation de gauche en partie basse. On a du bâti donc aligné sur les différentes voies, plus de densité, et qui laisse de l'espace par rapport à des cônes de visibilité. Tel que c'est parti, on est plutôt dans la logique, dans l'aménagement de la photo du haut, où ils ont laissé construire sur les deux, trois grandes parcelles qui descendaient vers les bergeries. Et on a des constructions donc en mitage de manière totalement donc aléatoire sur ces parcelles-là. Donc ça veut dire que la vue qu'on avait quand on était donc à la Patte d'Oie, qui était en partie haute, qui offrait une vue donc remarquable sur le mont, maintenant elle est fermée parce qu'il y a des maisons qui se sont succédées et en plus avec des couleurs assez percutantes. Donc c'est assez dramatique. Nous, on avait proposé de construire sur la partie nord donc du bourg, donc la partie que vous voyez. Voilà. Donc on avait signalé que c'était cette partie-là qu'il fallait donc aménager. Ça va se faire un peu maintenant, mais nettement moins puisqu'ils ont construit principalement du côté Mont-Saint-Michel, et comme le SCOT définit, et quand on fait donc un PLU, on fait une projection de la population sur 10 ou 20 ans, et on s'aperçoit que déjà, avec tous les terrains qu'ils ont déjà utilisés, plus ceux qui restent disponibles et maintenant de façon c'est joué, ils vont principalement construire donc vers le mont, des terrains qui sont donc plein nord. Donc ça veut dire que les gens effectivement profitent de la vue donc vers le mont, mais c'est une vue où on a donc les vents de mer, on a donc les embruns. On a la vue sur le mont, mais c'est pas très agréable pour vivre. Donc, faire une terrasse plein nord, c'est jamais très fonctionnel. Donc, on a toujours une opposition entre la vue et l'aménagement qui est fait de la maison, qui est en contradiction, quoi. Alors que les terrains qui sont donc du côté nord sont nettement moins chers, sont nettement plus faciles à aménager parce qu'on a tous les réseaux, et en plus, on accède directement à des villes où il y a les bassins d'emploi, comme pour Tourcoing ou autre. C'est plus accessible de ce côté-là. Donc, voilà. Et ça évite de traverser le bourg. Voilà. Et ça évite donc de traverser le bourg avec une population voilà, qui va aller du sud donc vers le nord pour aller ensuite vers les bassins d'emploi. Donc ça crée différentes problématiques aussi. Ce sont des bourgs avec des voies qui sont donc très étroites, et augmenter la population, parce que c'est une urbanisation qui est mal implantée, on va encore créer donc des problèmes d'aménagement et des coûts d'aménagement qui sont faramineux. Donc voilà, donc en résumé, on a les principes d'orientation et d'urbanisation d'une petite commune face au Mont-Saint-Michel. Ça a été ben de bien densifier dans la logique de la continuité que l'on a sur ces bourgs. C'est-à-dire que c'est assez surprenant maintenant, mais quand on fait des PLU sur des bourgs, Huisnes, Courtille ou autres, ce sont des petites communes, c'est 500, 600 habitants, c'est 900 au pire. Donc c'est pas grand-chose, hein. Et quand on fait donc une analyse des typologies donc urbaines du bourg, c'est de l'alignement sur rue. Et ça crée aussi donc une identité. Ça crée de la densité, mais aussi donc une animation, parce qu'on a des services. Voilà, donc ça évite donc des déplacements, enfin, donc des logiques qu'on retrouve encore maintenant. Et c'est impossible donc à reproduire. Donc à chaque fois que l'on dit qu'il faut refaire ce qui existe, ça fonctionne, c'est bien, c'est de qualité, c'est fonctionnel. Non, non, on veut des grandes parcelles, 1000 mètres carrés. Voilà, on veut être indépendant, séparé donc de son voisin. Enfin, on arrive à des logiques, à des typologies qu'on retrouve n'importe où, alors qu'on a des bourgs avec qui ont un caractère, qui ont une identité. Et voilà. C'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé, c'est pas très motivant pour l'urbanisme, mais ce sont des problématiques qu'on a, je dirais, tous les jours, et qu'on essaye de combattre. Comme donc beaucoup de villages donc de terre, c'est la terre utilisée qui sert à la construction. Et quand vous regardez donc des villages comme donc en Afrique, où la forme architecturale, mais c'est des multiples formes, vous vous mettez à 500 mètres ou 1 km donc du village, vous voyez juste une masse colorée très uniforme. Et c'est pas la forme qui pose problème. C'est avant tout donc la couleur. Et ça, c'est la pire des choses. Et quand on s'aperçoit qu'il y a différents types de couvertures, différents types d'enduits, différentes couleurs, ben on est parti donc de la tangue, avec quelques nuanciers, pour leur proposer des références donc de couleurs. C'était soit la tangue, soit en référence de pierre, pour le remettre pas dans le poste, parce que maintenant, ça va être un PLU. C'est la pierre donc de l'église. Parce que souvent, donc, les églises, ce sont les premiers bâtiments qui ont été donc mis en place, les bâtiments référentiels. L'église ou la mairie, c'est souvent les bâtiments qui ont le plus d'avenir, on va dire, qui seront les moins maltraités. Et donc, du coup, ce sont les références de qualité de pierre qu'on peut donc utiliser le plus souvent pour essayer de motiver les gens à avoir certains principes d'aménagement. Donc voilà, donc un exemple type. Et pareil pour les bâtiments agricoles et de services, de partir sur des matériaux plus simples, mais qui s'intègrent bien, comme le bardage bois naturel. Pourquoi pas le fibro-ciment. Donc à l'époque, c'était donc utilisé, mais par rapport donc aux couleurs donc de la baie, ça passait très bien. C'était pas un problème. Et on va continuer avec une autre commune littorale. Où là, c'est un peu plus développé. Donc, Saint-Planchet, c'est à 3 km de Grandville, vous voyez bien. Donc, c'est plus dans les terres. Donc, c'est donc un petit bourg. Donc, on doit avoir dans les 900 habitants, là. Et un projet, donc, d'extension. Donc, avec l'atelier du canal et les différents partenaires que vous avez sur le bas de la présentation. Donc, on a travaillé sur ce projet. Et nous, sur le paysage et sur l'environnement. Donc, la première chose, c'était faire un diagnostic du site. On retrouve encore un village qui est donc installé sur un promontoire, vraiment en limite du relief, avec encore une fois donc l'église qui est sur le point culminant, ce qui est tout à fait logique. Et on a essayé de mettre en évidence certains principes qui, je pense, ont été respectés après. Il y avait tout d'abord une approche physique avec l'hydrographie pour mettre en évidence les parcours hydrauliques. Donc le parcours de l'eau, qui est une donnée donc essentielle, puisque maintenant l'objectif c'est d'avoir zéro impact sur les inondations. Donc on veut vraiment que l'eau soit gérée sur place, faire de l'infiltration. On ne veut pas modifier le comportement donc hydraulique du site. Donc définir certains principes, définir où sont les zones humides, où sont les parcours hydrauliques. Pour les respecter. On a analysé aussi tout ce qui est corridor écologique. Donc ça, c'est absolument nécessaire, et d'autant plus sur cette commune où c'était vraiment tout à fait intéressant, puisqu'on a vraiment ce promontoire, mais qui est cerné par une zone humide. Donc c'est tout à fait intéressant, et par des zones de marais donc également. Donc on a vraiment donc des corridors à respecter. On a donc analysé chaque haie, chaque chemin creux, pour les mettre en évidence. On a repéré le patrimoine donc arboré donc également, les ripisylves, etc. Donc on a défini une cartographie donc des différents milieux avec leur sensibilité, sachant que on était dans un projet de création sous la forme d'une ZAC. Donc ça veut dire qu'on a une notion d'étude d'impact. Donc on a forcément une analyse donc du site. On définit donc un projet qui respecte donc bien sûr l'incidence de l'analyse. On définit donc les impacts et à partir de là, si nécessaire, les mesures compensatoires. Et pour que le projet soit donc accepté, il faut que les impacts soient donc au minimum possible, qu'il y ait des mesures compensatoires pour que l'administration accepte l'extension Sous forme de ZAC. C'est la même procédure d'ailleurs que l'on retrouve dans le cadre d'un PLU maintenant, hein, avec d'autres terminologies, mais c'est la même procédure. Donc on a fait une carte des milieux avec prairies, vergers, friches, cultures, les chemins, les voiries, etc. Voilà, avec des photos référentielles, des différents types d'environnement. On a repéré les espèces remarquables, les espaces qu'il fallait absolument protéger. Entre autres, on a quelques espaces tout à fait intéressants de zones humides et de vallons humides. Alors ça, on l'a vraiment mis en évidence, puisque une partie donc du projet, on a des chemins creux qui conduisent l'eau également, et un vallon humide qui donne vers le sud. Là, on a vraiment toute une zone humide qui fait le tour. On avait des anciens bassins de lagunage. Maintenant, ils sont raccordés à la station d'épuration qui est sur Grandville, donc ils n'ont plus besoin de ces bassins-là. Et grâce à l'analyse donc de ce milieu, on a mis en évidence que ces bassins pouvaient, dans le cadre de l'aménagement, être réaménagés et être donc intégrés dans la gestion des eaux pluviales. Parce que c'est des bassins qui étaient en plus avec des bâches, alors vous imaginez ce que ça peut donner, puisque on a le problème qu'on voit souvent avec le soulèvement de la bâche, avec des bulles, enfin bon bref, des problèmes techniques, ils ne savaient pas quoi en faire, donc un coût aussi de réaménagement. Et on a réussi à maîtriser le foncier plutôt que de faire donc des bassins que l'on intègre dans chaque secteur, on va plutôt donc s'orienter à réutiliser donc ces systèmes qui sont mis en place pour les reconvertir dans le cadre de la gestion de l'ensemble de l'aménagement. Donc c'est vraiment, je dirais, une bonne intervention qui permet d'optimiser l'espace et de reconvertir des anciennes installations. Donc on a vraiment, on avait une mare donc en cœur de bourg, donc ça c'était tout à fait intéressant. On a des vallons humides et des prairies hygrophiles. Une avifaune tout à fait intéressante aussi, parce qu'on a pas mal de très vieux chênes, alors qui sont parfois complètement torturés, donc on se dit, il faut peut-être les couper, c'est pas très beau, ils sont moitié cassés. Non, justement, ça, c'est au niveau des insectes, au niveau de l'avifaune, c'est une richesse, et même au niveau du paysage, hein. C'est pas parce qu'ils sont moitié cassés qu'ils sont pas intéressants, mais ils ont des formes assez remarquables. Donc on avait donc des enjeux liés aux problèmes d'inondation, à la qualité des eaux, des enjeux écologiques. Donc on a essayé de voir tout ça pour définir certains principes, et entre autres, on a voulu aussi mettre en évidence des notions de perception. On retrouve la logique de silhouette villageoise qu'on avait sur les villages face au Mont-Saint-Michel, mais là c'était la même logique, c'est-à-dire qu'on allait vraiment donc en limite sud du bourg, sud et est, faire de nouvelles limites. Donc à partir de là, une nouvelle identité du bourg quand on arrive à partir de routes principales, de routes départementales, encore une fois, qui vont vers les bassins d'emploi, vers Avranches, vers Grandville. Donc il fallait absolument que ces limites soient de qualité. Donc on a mis en évidence tous les différents points de vue qui sont à considérer pour les traiter en termes d'urbanisme et d'architecture et de paysage. Donc quelques enjeux qui ont été mis en place. Donc des enjeux de paysage avec le traitement des limites urbaines, avec la valorisation des nouvelles limites, la préservation de certaines vues du bourg vers l'extérieur. Il fallait aussi donc éviter de se refermer, faire en sorte que le bourg se referme donc sur lui-même. Donc actuellement, quand on est sur les abords donc de l'église, donc à Promontoire, et profite d'une vue sur le grand paysage, de manière évidente, on a préservé ce point de vue référentiel. Donc on a bien une entrée de bourg où on conserve la vue sur l'église en arrivant. Voilà. Et en plus, d'autant plus que cette vue sur l'église donne sur un premier cimetière et sur le vallon humide que l'on va donc aménager. Il y avait la préservation de la ressource en eau, donc préservation des zones humides existantes. Voilà, donc une mare qui a été conservée, des mares temporaires aussi qui ont été prises en compte et qui sont donc utilisées dans chaque secteur au niveau des eaux pluviales sur les voiries, où en fin de compte on conserve le parcours hydraulique de chaque parcelle et on fait des zones d'infiltration avec des exutoires si effectivement il y en a trop, mais on privilégie l'infiltration sur place. Voilà, l'infiltration des eaux pluviales, aussi avec des systèmes de noues et de zones d'étal, donc en espace vert public, c'est-à-dire que c'est des espaces verts qui 95% donc de l'année, voire 99% sont donc utilisables, mais quand il y a des événements pluvieux donc qui sont majeurs, ils sont donc inondés, voilà, donc on ne les utilise pas, ça dure une semaine ou deux, et puis ils sont réutilisables. Donc, ce sont des solutions très économiques pour gérer l'espace. La conservation et la gestion des espaces naturels, Avec les continuités de mailles bocagères, de haies, de corridors, de chemins creux, voire aussi avec quelques acquisitions, parce qu'il y avait des continuités qui n'étaient pas évidentes, donc on a proposé, dans le cadre de l'aménagement, de modifier le périmètre initial de ce projet pour retrouver certaines logiques de territoire et de continuité. La préservation des arbres aussi de grande valeur, qui ont été donc identifiés sur les plans. Donc création d'une identité paysagère, voilà. Prise en compte de l'entretien aussi, que l'on verra après. Alors, donc une première image qui servait, je dirais, d'hypothèse de réflexion, de discussion, avec en partie haute, plutôt donc des services, puisqu'on a les voies principales quand vous accédez de la 84 en allant donc vers Granville. Vous avez une route départementale donc un peu plus haut, donc c'est vraiment le côté où le plus de monde peut donc accéder. Et on a plutôt mis tout ce qui est stade et autres aménagements liés donc au public, pour recevoir donc du public, sur la partie nord du bourg, pour des raisons d'accessibilité, mais aussi d'exposition et de forme de terrain. Voilà. Ensuite, on a défini en cœur de bourg des densités et des typologies architecturales qui sont plus avec les logiques urbaines qui existent dans cœur de bourg, c'est-à-dire avec des continuités, tout en recherchant plus de densité pour justement se préserver quelques espaces, comme l'espace principal qui s'appelle Square, mais qui est une ancienne pommeraie, voilà, où on veut laisser vraiment un espace public significatif en cœur de bourg. Et on retrouve plutôt des logiques de bâtiments en petits collectifs dans les espaces principaux. Et au fur et à mesure, on est plutôt de l'individuel groupé ou du pavillon, mais une densité de parcelles où on n'est pas sur des 1000 mètres carrés, mais plutôt sur du microfoncier, du 300-400, pour justement, de manière systématique, avoir une certaine densité, une certaine donc identité architecturale. Et on conserve bien, et vous le voyez bien sur la partie sud, juste au milieu donc du projet, toute l'ouverture et une respiration du cœur de bourg vers l'église, et de l'église vers son ouverture sud. Et donc également vers les vallons humides. Donc on voit bien qu'on a conservé toutes les haies qui existent, quitte à les densifier, les haies, mais aussi donc les talus qui font donc obstacle aux eaux de pluie. Et en pied de talus, on a l'eau qui peut s'infiltrer à chaque fois. Voilà. Donc ce sont des techniques simples mais très économes en termes d'aménagement, puisqu'on va le voir après, ça a aussi une incidence sur le coût du foncier qui sera proposé donc aux futurs acquéreurs. Bon, à partir de là, il y a eu des discussions, il y a eu des réflexions, les différentes problématiques ont été vues, et certaines choses ont été modifiées. On avait des problèmes, donc par exemple, de pente, et un projet de nouvelle voie d'accès qui devait traverser une zone humide sur le nord. On a réussi à les persuader que c'était peut-être un peu hors d'échelle par rapport à la commune, et peut-être une vision sur du très très long terme. Donc ils ont suspendu le projet. C'était déjà une première chose. Voilà, on a essayé de simplifier un peu, de calmer un peu les objectifs, avec des problématiques de pente, d'intégration. On avait donc l'option 5 de l'habitat très proche d'une ferme qui est toujours en activité. Donc, entre autres avec une stabulation. Donc, il est hors de question de dire à cette personne qui a encore 10 ans d'activité, on a fait des pavillons, il faut arrêter la stabulation. Donc, en toute logique, on évite de construire à proximité, c'est le plus simple. Voilà, donc ça paraît évident, mais il y a d'autres cas où ce n'est pas respecté. Donc voilà, et on a laissé certaines respirations, et on a conservé des espaces tampons qui seront donc paysagers, donc en bas donc du projet, aussi pour que l'eau puisse s'infiltrer avant la haie, aussi pour respecter donc les haies qui existent sur les talus, pour que les nouvelles limites sud donc du projet ne soient pas trop percutantes. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir une lecture directe sur le front bâti, donc on a conservé les chaînes qui existent sur les talus, quitte à les densifier, pour avoir une sorte de filtre vert. Et on a laissé donc un espace entre ces haies et les premières constructions, parce qu'autrement, si on ne l'avait pas fait, forcément, à moyen terme, les chaînes auraient été coupées, parce que ça fait une ombre portée sur les habitations. Enfin, on aurait eu des problèmes donc de gestion ou de non-respect de ce patrimoine donc à moyen terme. Donc, mais volontairement, on a laissé une quinzaine de mètres en respiration et en passage. Donc, on a fait des objectifs environnementaux. Alors, donc voilà, différents principes. Donc déjà de définir des typologies donc architecturales où on est plutôt, on essaye vraiment. Donc vous voyez, les habitats sur des lots libres, c'est plutôt du 300 aux 400 mètres. On a quelques plus grands lots, mais la majorité, on recherche la densité. Donc justement, pour pas trop consommer trop de terres agricoles, parce que c'est un patrimoine qui convient de préserver. On a une densité urbaine qui était à 16 à 20 logements donc à l'hectare. On respecte des objectifs de logements sociaux, bien sûr. Organisation des densités selon les principes que je vous ai définis et des fonctions donc urbaines qu'on va voir après. Alors, il y avait les voies de desserte, donc des principes d'aménagement, des voies de desserte qui sont assez donc étroites pour limiter donc la vitesse. Limiter aussi les zones imperméables, limiter les coûts d'aménagement, parce que c'est assez monstrueux de faire de la voirie et de faire des réseaux, donc on voulait absolument faire en sorte, et favoriser aussi donc les déplacements doux. C'est-à-dire que si les voitures, s'il n'y a pas un confort à circuler donc en voiture, ça peut aussi favoriser pour les 500-800 mètres qu'on va voir après sur un autre schéma de déplacement pour la majorité de la population, ils peuvent aller donc à l'école à pied ou aller chercher leur baguette à pied. Donc développer les circulations douces, voilà. Organiser le stationnement de façon à rendre les parkings discrets. On les a donc regroupés. On a un peu de stationnement sur chaque parcelle. Voilà, mais enfin, on essaie d'organiser tout ça. L'utilisation de matériaux perméables également pour les revêtements et les espaces publics. Donc on favorise l'infiltration. Voilà. Donc sur les déplacements doux, quelques principes qui ont été mis en place avec des parcours. C'est-à-dire que pour organiser donc le plan masse, la priorité a été de s'intéresser donc aux déplacements doux pour avoir les chemins donc les plus directs et les plus sécurisants pour les enfants et pour les accompagnants, pour qu'ils aillent de par eux-mêmes, si possible, profiter des espaces publics et des services de la commune. Entre autres, il y a une école maternelle. Il y a une salle des fêtes, il y a un terrain de foot, il y a différents équipements qui sont disponibles, donc autant qu'ils en profitent. Donc la priorité, c'était donc les déplacements doux et ensuite de conserver donc les structures végétales qui existent. Et ensuite, donc on a vu où est-ce qu'on allait mettre de l'urbanisation. Alors justement, on a regardé donc les déplacements, les durées de déplacement, et la majorité était donc dans les 500 mètres, voire 800 mètres pour les plus éloignés, donc c'est relativement rapide. Donc à pied, c'est 5 à 8 minutes, et à vélo. C'est plat pour la partie haute ou après ça descend un peu, ça dépend si on veut forcer un peu sur les mollets. Les déplacements, l'intégration donc des parkings, alors avec différents systèmes plus ou moins donc imperméables selon les zones et selon la fréquentation de ces parkings aussi. Voilà, selon les charges, si c'est des bus qui arrivent, si c'est des cars scolaires parce que les équipements sont partagés avec d'autres communes, enfin, il y a différentes logiques. Voilà, on avait au niveau de l'environnement, paysage, la biodiversité, respecter la nature et la qualité des sols en place, intégrer le quartier donc au paysage. Donc l'intégration se fait aussi par la topographie. Alors ça c'est capital, de bien respecter et limiter les terrassements, respecter les franges urbaines, les liens avec la campagne, les vues à conserver, créer un lien social avec la nature. Donc accessibilité de la population donc aux espaces publics et aux espaces naturels. Donc à partir des différentes circulations, ils ont aussi toute une promenade, et entre autres avec les bassins qu'on va aménager donc en partie basse, toute une promenade donc vers la zone humide, qui fait tout le tour de la commune en partie basse. Donc il y a plusieurs kilomètres donc de promenade, et on peut même aller jusqu'à Granville à partir de la zone humide. Donc ça c'est intéressant. S'appuyer sur le dispositif de gestion des eaux pluviales. Pour minimiser donc justement les impacts, choisir des plantations d'essences locales, ne pas venir avec des logiques d'espèces urbaines, mais partir donc des espèces qui existent, essayer de les pérenniser donc au maximum pour que chaque commune ait son identité et son vocabulaire paysager. Alors donc voilà quelques exemples sur des trames bocagères qui sont préservées, des zones humides. Des logiques de traitement un peu plus artificielles de parcs urbains, mais sur des micro-espaces, mais plus vers le bourg. Bon, l'image est peut-être un peu forte par rapport à ce projet-là, mais bon, c'était celle qu'on avait sous le coude. Des logiques de gestion différenciée avec, ça peut être de la prairie fleurie ou d'autres prairies plus simples, selon les espaces verts. Hors de question de faire des espaces verts qui sont de manière systématique et tondu donc une fois par semaine. Il y a aussi des économies de gestion du personnel et puis favoriser la biodiversité. Donc on laisse des zones très naturelles. Avoir des plantations et un entretien donc assez léger sur les espaces verts publics et privilégier des formes végétales plutôt champêtres qu'anthropiques. Donc sur la gestion de l'eau, c'est ce qu'on va voir ici. Donc limiter au strict nécessaire donc les surfaces imperméables. Utiliser au maximum de matériaux poreux, stocker à la source et de façon diffuse les eaux pluviales par la mise en place d'une combinaison de solutions techniques favorisant l'infiltration et la rétention, privilégier la gestion donc en aérien, donc en visible, sous forme de noues et de bassins paysagers, limiter donc les ouvrages techniques. Voilà. Donc assurer des espaces paysagers plurifonctionnels qui peuvent servir de réservoirs, mais aussi donc d'espaces verts. C'était la chose que je vous disais donc tout à l'heure. Des espaces qui peuvent être inondables certains jours de l'année. Voilà. Et concevoir des espaces verts sobres en termes d'aménagement et en termes anthropiques. Donc quelques exemples d'aménagement qu'on peut voir avec des systèmes de noues, de la plus simple à la plus complète. Voilà. Des toitures végétalisées également, tout à fait intéressant, donc au niveau de la rétention des eaux et aussi au niveau de la protection thermique, puisque c'est un très bon isolant. Voilà. Des voies piétonnes ou des parkings qui favorisent l'infiltration, enfin différents systèmes qui maintenant sont tout à fait connus. On n'a rien inventé. Les systèmes de noues et de zones de transition que je vous disais, où certains espaces verts peuvent se retrouver donc inondés quelques jours, mais ça pose aucun problème. C'est même fort sympathique, il se passe plein de choses. Il y a des grenouilles, il y a des choses. Pour les enfants, ça peut être sympa. Voilà, donc des noues qui peuvent être juste en herbe ou donc inondées aussi, ou quelques mares, des mares temporaires, qui peuvent être plus ou moins donc en eau, voilà, des choses comme ça. Les économies d'énergie aussi, l'orientation des bâtiments. La disposition des bâtiments, l'ombre portée est importante pour participer à des objectifs. Donc on parle donc maintenant d'objectifs thermiques qui sont assez, assez percutants et assez durs donc à obtenir, avec un coût, un surcoût pour la construction qui va être très important. D'où la difficulté de les obtenir, d'où ce surcoût qui est prioritaire, puisque ce sont des objectifs maintenant qui devront être satisfaits pour les nouvelles constructions. Il ne faudrait pas non plus que ça pénalise les aménagements qu'on va faire à l'extérieur, parce que c'est 10 à 15 ou 20% qu'on a en plus en coût de construction. Tous nos budgets ne sont pas extensibles à volonté. Soit on fait l'effort, ou on pouvait le faire, mais ou soit c'est un budget qu'on prend sur autre chose. Et ça, c'est pas évident. Donc des principes d'orientation donc par rapport à l'ensoleillement, d'ombre portée, voilà. Bon, j'ai simplifié un peu parce que c'est pas la partie que j'ai le plus développée, donc je ne voudrais pas intervenir dessus. La gestion aussi donc des déchets pour favoriser le recyclage, entre autres, le tri sélectif. Donc il faut que dans les espaces, on y intègre aussi des espaces de recueil des différents déchets et faire en sorte qu'on intègre ces différents et conteneurs de manière discrète. Voilà, donc à la fin, on est resté grosso modo sur le schéma donc initial avec quelques orientations, quelques détails qui ont bougé. Ce qu'on voit pas ici, c'est vraiment toute la zone humide et tout le vallon humide et le lagunage qu'on va vraiment réutiliser. C'est-à-dire que donc la mairie a décidé d'en faire l'acquisition dans le cadre de l'aménagement du foncier et de la DUP de la création de la ZAC. Donc ça, c'est quelque chose d'assez percutant, qui n'était pas évident à faire accepter, il a fallu discuter. Mais donc du coup, ils auront une maîtrise de la totalité de l'espace et l'aménageur prend en charge l'aménagement de ces anciens lagunages qui ne servent plus à rien. Donc du coup, on a vraiment une vision donc tout à fait intéressante de l'aménagement et la gestion des eaux pluviales. Plutôt que de faire le grand bassin tampon que vous voyez ici, là, je ne sais pas si, juste en partie basse, là, ici, ce grand bassin tampon, j'ai réussi à le faire admettre que de consommer tout un espace comme ça, qui n'était pas très justifié en termes hydrauliques, parce que c'était pas évident au niveau des pentes, on a réussi, je dirais que le foncier, ce foncier-là, qui peut avoir une valeur d'aménagement, on pouvait faire 2-3 constructions de plus, et avec ce foncier, on peut réaménager tous les bassins donc en partie basse. Et la même problématique de gestion des eaux, donc on la change donc d'emplacement et on arrive à la gérer. Donc voilà quelques exemples d'aménagement. Alors j'ai essayé, j'ai fait ça un petit peu au kilomètre. Hein. J'ai pas trop le temps de développer comme vous pouvez le faire. Voilà, donc on a un bureau d'études à faire tourner. J'avais peu de temps pour faire, mais j'ai développé quelques questions sur quels sont les avantages à réaliser un projet donc urbain qui est spécifique à un contexte environnemental et paysager. Alors, de manière un peu, peut-être un peu directive, mais voilà. Alors, c'est une liste non exhaustive, mais ce sont les avantages qui apparaissent le plus souvent comme évident. Alors déjà, il y a s'intégrer à un espace en principe choisi pour sa qualité et ou lui apporter donc une valeur complémentaire. Alors il y a souvent quand un aménageur ou même un particulier va se dire je veux faire donc ma maison, je veux faire donc un projet, où est-ce que je vais le faire? Il va chercher donc avant tout donc un espace qui a une qualité. Donc une qualité urbaine, une qualité donc de dessert, une qualité aussi environnementale, paysagère. Ça peut être parce qu'il y a un panorama, parce qu'il y a un cadre naturel, qui fait que... Donc ça veut dire qu'il va s'approprier un espace de qualité qui, a priori, aurait pu rester disponible pour, à la rigueur, construire juste en limite et profiter donc de cet espace qui est conservé, plutôt que de l'utiliser. Donc voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, où on essaye justement, nous, maintenant, sur les projets, de leur dire, utilisez de préférence les espaces de friche, ou les espaces qui sont peut-être plus chers à aménager, mais qui sont quelconques et qui n'ont pas de qualité, qui seront plus chers, mais juste en limite, vous avez des espaces de super qualité qu'il faut préserver absolument. Alors que souvent, les espaces qui sont beaux, qui sont de qualité donc environnementale, sont les plus simples à aménager. C'est donc une terre agricole, c'est une terre avec des haies, avec un verger, des espaces qui ne coûtent pas cher. Les terres agricoles, vous savez tous, c'est entre 5 000 et 10 000 euros l'hectare. Donc, je dirais, c'est pas le plus cher. Donc, malheureusement, ce sont les espaces qui sont consommés de plus en plus. Donc, maintenant, il y a des directives pour consommer le minimum de terres agricoles, mais bon, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin, et notamment avec des logiques de densité donc urbaine qu'on pourrait favoriser donc beaucoup plus. Parce qu'actuellement, on a des SCOT qui nous imposent parfois 10 à 12 habitations donc à l'hectare. Donc alors que l'on sait qu'on pourrait très bien faire des aménagements à 20 donc habitations donc à l'hectare, qui offrent différents intérêts, c'est-à-dire que le foncier serait moins cher parce qu'un aménagement sur un hectare, on le divise en 20 parcelles. Donc ça permet de vendre des parcelles donc moins chères et de favoriser la qualité de l'architecture. Ça fait plus de densité donc urbaine, donc on évite de s'étaler, on est plus proche des services, on est plus proche du cœur de bourg. Ben voilà, toute une logique d'aménagement et de préservation donc des terres et de l'environnement. Donc voilà, donc on a cette logique-là. Éviter des projets qui sont standardisés, c'est-à-dire que des principes de lotissement, d'aménagement, de typologie donc architecturale qu'on a vu à tel endroit, et parfois on les retrouve 10 km plus loin, exactement le même projet, parfois le même promoteur, le même constructeur. Enfin, on dit que c'est des copier-coller de maisons, c'est vraiment dommage. Donc, pour éviter que ces projets soient donc standardisés, il faut absolument, c'est ce qu'on a essayé de faire sur Saint-Planchet et sur d'autres communes, c'est définir donc le sens du lieu. Quelle est l'identité de chaque espace? Quelles sont ses lignes structurantes, ses points d'appel? Quelle est son histoire? Quelles sont donc ses valeurs patrimoniales, architecturales, urbanistiques, environnementales et autres? Voilà. Définir donc son identité, son potentiel, quelles sont donc ses faiblesses, ses avantages, quels sont donc les enjeux et les orientations qu'on peut donc en définir. Et à partir de là, chaque projet sera donc spécifique. Donc, alors j'ai utilisé le... Donc il faudrait que ce soit le prolongement donc naturel, j'ai mis entre guillemets, c'est un peu une provocation, mais quelque part, le prolongement donc naturel de l'urbanisation du bourg. C'est-à-dire que donc on a un bourg qui s'est donc implanté, et souvent les bourgs se sont donc implantés par rapport à des logiques donc de relief, liées aussi donc à la ressource en eau. Donc vous avez beaucoup de communes qui se sont donc implantées parce qu'il y avait l'eau qui était indispensable. Donc il y a eu des fermes, il y a eu un moulin, et ensuite il y a eu un peu plus. On accédait, on avait une rue pour accéder à certains services, et puis après, voilà, ça s'étend. Mais il y avait des logiques naturelles donc d'implantation. Et il faut que ces logiques donc de bourg puissent se prolonger avec peut-être d'autres logiques, mais voilà, qui est quand même une certaine donc évidence sur les extensions de bourgs. Donc la préservation des corridors écologiques, des zones humides, des chemins creux, du patrimoine naturel et de l'ensemble des paramètres donc de la commune. Il faut aussi permettre la limitation le respect de ces valeurs et aussi de la topographie de l'implantation en respectant des orientations, des courbes de niveau, certains profils. On arrive à limiter énormément donc les terrassements, entre autres avec des voiries qui s'intègrent bien, avec une gestion des eaux pluviales qui respecte la topographie. On limite énormément les terrassements et donc ça a un coût. Et donc c'est un coût qui évite de vendre trop cher. Donc des parcelles d'où on peut avoir de meilleures architectures. La préservation des structures donc arborées et des talus qui procurent aussi. Alors ce qui est important, c'est quand on préserve donc des arbres, quand on termine donc un projet ou une construction, que ce soit donc à l'échelle donc du privé ou d'un aménageur d'un lotissement ou d'un nouveau quartier, quand on a préservé donc les structures du site et son patrimoine donc végétal, on a l'impression que le projet à peine terminé, il a une maturité. Il a déjà une ancienneté parce qu'on a des arbres qui ont 50 ans, qui ont un siècle, qui donnent du caractère. Voilà, ça a du poids. Et alors que si on part de zéro, ben, malheureusement, ce n'est pas les quelques arbres qu'on va planter qui vont assurer de la force au projet. Voilà, donc assurer une bonne ou une très bonne intégration, si possible, environnementale et paysagère. Il y a la valorisation des limites et silhouettes et entités du bourg et des nouvelles extensions donc urbaines, ça c'est capital. La valorisation du projet qui bénéficie de l'identité du lieu donc préservé. Donc c'était ce que je vous disais aussi, il faut essayer sur des espaces plutôt quand on a vraiment donc identifié qu'il y a un lieu de super qualité, plutôt que de construire sur cet espace-là, essayer de construire donc en limite ou dans des zones très secondaires pour justement y profiter donc après donc d'espaces disponibles qui sont de qualité. Et toutes ces logiques d'aménagement font qu'on aura une recevabilité donc administrative du projet, alors que ce soit la création de ZAC pour ce projet-là, mais ça peut être un projet de PLU, ça peut être un projet de lotissement, ou simplement le particulier, pour son permis de construire, il a respecté certains aménagements sur sa parcelle et fait que son projet passera beaucoup mieux. Donc la meilleure intégration donc au site est toujours source significative d'économie au niveau des interventions. Donc c'est l'optimisation financière donc du projet. Donc dans vos différentes thématiques puis quelle est donc la valeur de la nature, quels sont les paradoxes, les questionnements. Et en tant que donc aménageur, parce qu'on fait aussi donc pas mal de projets. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a optimisé donc un espace, qu'on respecte son environnement, on fait un projet qui coûte beaucoup moins cher. Et tout le monde y gagne. On respecte un cadre, mais on fait une grosse économie. Donc il y a un aller-retour qui est tout à fait intéressant à considérer. Donc on limite au maximum donc les mesures compensatoires, sous toute forme, voilà. C'est faisabilité financière et c'est aussi source d'appropriation et d'acceptation donc du projet, que ce soit pour ceux qui vont donc accéder aux nouvelles constructions et aussi donc aux riverains et donc aux visiteurs de la commune quand c'est des sites touristiques ou autres, etc. Donc voilà, différentes thématiques. Voilà pour le quodétudes, modeste bureau d'études paysage.